Bienvenue à tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Un grand plaisir aussi d'être avec Nadine et Léa, que je revois depuis, et ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis ravi de partager ce culte ensemble avec vous et elle. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Oui, Jésus est présent au milieu de nous. Il n'est pas à côté, extérieur à nos joies, à nos problèmes. Il n'est pas devant, en avance, ou derrière, en retard. Il n'est pas en dehors du monde. Non, il est au milieu de nous. Au milieu, avec nous, au cœur de nos vies. En ce dimanche où nous nous retrouvons pour ce culte, recevons la grâce et la paix de la part de notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter au premier répond, et ensuite il y aura des répons qui seront enlevés. Hein. On vous les indiquera. Je vous invite à vous lever.
S'asseoir. Et nous prenons le temps de nous poser devant Dieu pour faire monter vers lui nos merci, notre louange. Je veux te louer, Seigneur, pour les chemins sur lesquels tu nous mènes, car chaque chemin est unique. Je veux te louer d'être à chaque pas à mes côtés. Je veux te louer pour tous les moments où je chemine, le cœur rempli de joie, te louer pour les rencontres heureuses. Oui, te louer, Seigneur, pour les moments où l'on avance, pour les moments où l'on s'arrête. Oui, je veux te louer parce que le rythme de nos vies n'est pas toujours monotone, et parce que tu lui donnes une respiration. Je veux te louer, Seigneur, pour ta présence à mes côtés dans les moments moins faciles, te louer pour les épreuves quand elles sont surmontées, pour tous ces obstacles que tu m'aides à dépasser. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, car tu renouvelles chaque jour ta promesse. Ne crains rien, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. Et on se lève pour chanter le cantique indiqué 51-20, du lever du soleil jusqu'à son coucher. 51.
Béni soit le nom
Je vous invite à vous asseoir. Assurés de l'amour inconditionnel de Dieu, nous pouvons nous unir dans la prière pour lui confier nos vies telles qu'elles sont. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons à présent prendre le temps de te dire tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous oppresse, toutes ces réalités que nous traînons comme des fardeaux et qui sans cesse nous éloignent de toi et des autres. Nous voulons bien parce que nous savons que tu n'en profiteras pas, ni pour nous humilier, ni pour nous attrister, ni pour nous rabaisser. Toi, tu es le berger qui part à la recherche de la brebis qui au loin t'appelle dans le désert. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons bien exprimer devant toi tout ce qui est au fond de notre cœur et qui pèse. Trouver des mots pour te dire nos défaillances et nos regrets, nos amertumes et nos violences. Parce que nous croyons à la force et à la tranquillité de l'aveu. Nous ne voulons ni enfouir ni cacher, mais seulement te dire comme on dit un secret. Seulement te remettre notre vie telle qu'elle est. Amen. Et on va rester assis pour chanter au 47-21. J'ai besoin de ta confiance. 47-21. Page 752 pour ceux que ça intéresse. Qui le peuvent et le souhaitent, je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de la part de Dieu, cette parole qui nous met debout. À nous qui avons faim et soif du pardon de Dieu, nous sommes heureux. Nous sommes heureux car il nous pardonne. À nous qui avons faim et soif de sa présence, nous sommes heureux car il vient demeurer en nous. Il vient nous fortifier, il vient nous guider. Nous qui avons faim et soif d'amour, nous sommes heureux, car le Dieu vivant, notre Père, nous aime et il nous pardonne en Jésus le Christ. Amen. Nous chantons 52-02, le cantique indiqué, Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. 52.
Et aussi, tout le monde ne le connaisse pas. Hein, on peut le jouer une fois, je le chanterai aussi derrière, et après on le prendra avec tous les instruments.
Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter à présent le chemin de vie que Dieu trace pour nous. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Aujourd'hui, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors vivez en enfant de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice et vérité. Amen.
Amen.
Le 44-15, c'est vers toi que je me tourne.
Avant d'entendre le texte sur lequel je vais méditer aujourd'hui, je vous invite à la prière. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est bien autour de ta parole que nous voulons nous réunir parce que ta parole nous fait vivre. La parole, de toute façon, dans le sens large du terme, fait vivre les gens, les fait communiquer, les fait se rencontrer, les fait se comprendre. Avec toi, parfois, c'est peut-être plus difficile. Nous voulons nous mettre à ton écoute. Nous voulons nous mettre à l'écoute d'une parole qui peut, c'est vrai, nous remettre en question, parfois un peu nous déranger. Mais nous sommes prêts. Donne-nous ton esprit pour éclairer cette parole. Amen. C'est un peu la journée de l'adolescence. Hier, on en a parlé avec l'équipe de catéchètes aussi. Cet après-midi, je ferai une mini-conférence sur la question de l'adolescence, de la transmission de l'Évangile auprès des plus âgés, enfin des préadolescents. Donc, je me suis dit, je vais quand même prendre et reprendre quelques fois aussi, parce que ce n'est pas la première fois, et revoir un peu aussi ma prédication sur l'Évangile de Luc, chapitre 2, les versets 41 à 52, où il est question, c'est la seule fois où on parle de Jésus quand il est enfant ou adolescent. C'est ça qui est incroyable. Sauf quand il est né, on est bien d'accord, il était tout bébé. Luc 2, 41 à 52. Les parents de Jésus, ses parents, allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme il y était monté suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents ne s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher, parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, alors ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis, au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons, tout angoissés. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais eux ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Seigneur, ta parole est vérité. Accompagne-nous dans ta vérité. Éclaire-nous. Amen. Chers amis, j'aime bien cette histoire. Elle est unique dans les évangiles. Elle est que chez Luc. C'est une histoire de face à face. C'est une histoire d'amour, mais aussi de rupture, d'incompréhension. Elle fait écho aux relations entre les parents et les enfants, aux difficultés entre les générations, à la vie, quoi. Jésus a 12 ans. Il n'est plus un petit enfant, il n'est pas encore un adulte, et il est dans cet âge que nous sommes aujourd'hui, que nous nommons aujourd'hui l'adolescence ou la préadolescence. C'est à peu près l'âge moyen de tous nos catéchumènes. Françoise Dolto, dans son livre « La cause des adolescents », cerne très bien cette période, je la cite. C'est une phase de mutation, Elle est aussi capitale pour l'adolescent, confirmé que sont la naissance pour le petit enfant et les 15 premiers jours de sa vie. La naissance est une mutation qui permet le passage du fœtus au nourrisson et son adaptation à l'air et à la digestion. L'adolescent, lui, passe par une mue au sujet de laquelle il ne peut rien dire, ou presque, et il est pour les adultes objet de questionnement, qui, au sujet de laquelle il ne peut rien dire aussi, et qui, selon ses parents, est chargé d'angoisse ou plein d'indulgence. Jésus et ses parents sont donc venus en famille, comme chaque année, fêter la Pâque à Jérusalem. Ils ont fait plusieurs jours de voyage depuis Nazareth, où ils habitent, pas en monospace, vous comprendrez, mais à pied. Ils ont passé une semaine à Jérusalem pour participer au culte dans le temple et écouter les théologiens débattre de Dieu. Au bout d'une journée de marche, les parents de Jésus s'aperçoivent que leur fils n'est pas avec eux. Il n'est pas non plus avec les autres membres de la famille qui font le voyage. Ils le cherchent pendant 3 jours. On peut imaginer leur angoisse et ce qui est traduit très bien dans la Tobe. Marie était angoissée. Quoi de plus terrible pour des parents que de perdre un enfant? Et à cette époque, pas de téléphone, pas de mobile. On ne sait pas où il est pour le rejoindre. Le troisième jour, enfin, il le retrouve à Jérusalem. Il est tranquillement assis dans le temple en train de discuter avec les théologiens. Cette histoire est aussi la nôtre, en fait. Celle de parents inquiets pour leurs enfants. Celle d'enfants qui prennent petit à petit leur liberté et leur indépendance. Cette histoire est également celle de Dieu qui se fait présent au cœur de nos tensions familiales, de nos conflits entre générations, de nos existences. Et je pense à Marie, dont le cri révèle toute l'inquiétude. Pourquoi nous as-tu fait cela? On t'a cherché partout. Tu nous as fait peur. Je pense aussi à ce pauvre Joseph sans voix, dont le silence dans ce récit est peut-être la marque d'un homme qui se trouve soudain démuni aussi devant son fils, dépassé par l'événement. Je pense à ces enfants confrontés à un fils, à ses parents, pardon, confrontés à un fils qui leur échappe. Et lui, Jésus, ne semble pas trop s'émouvoir de l'angoisse de ses parents. Il s'en étonne même et répond, « Allez, on peut le dire comme un effronté, mais pourquoi me cherchez-vous? Mon père était inquiet, mais je suis dans la maison de mon père. » Comme il paraît quand même prétentieux, ce Jésus, ce jeune garçon qui remet publiquement son père à sa place. Alors je pense aussi à tous nos enfants à qui on dit « Tu peux sortir, mais dis-nous où tu vas. » Et puis tu reviens à quelle heure? Et nos enfants de répondre « Mais oui, maman, te fais pas de soucis. » À l'âge que j'ai, je me fais encore du souci pour ma fille de 24 ans quand elle sort avec la voiture de sa mère. Elle va voir des copines ou des copains et qui revient à 3 heures du matin. J'ai du mal à m'endormir. L'enfance de Jésus, dont la Bible ne nous dit rien d'autre que cet épisode, a donc été une vraie enfance. Imaginez ce qui s'est passé avant les 12 ans et ce qui s'est passé après les 12 ans jusqu'au ministère de Jésus. On ne sait pas grand-chose, on ne sait rien. C'est ça qui est dingue dans cette histoire. Parce que si on met ce texte-là, c'est qu'il est important. Et il est important pour nous. Luc n'a pas fait ça n'importe comment. S'il l'a mis, c'est très volontaire. C'est pour nous donner un message, nous donner des indications, une direction. L'enfance de Jésus a donc été une vraie enfance. Jusque dans les conflits d'un adolescent avec ses parents. Cela n'est pas agréable à dire pour les parents, rappelle Françoise Dolto. Leurs enfants ont atteint le stade adulte lorsqu'ils sont capables de se libérer de l'influence parentale en ayant ce niveau de jugement. Les parents sont comme ils sont, je ne les changerai pas. Et je ne chercherai pas à les changer. Tant pis, je m'en vais. Et à ce moment de rupture, que l'on veut le plus tardif possible, certes, ce n'est pas à 12 ans, rassurez-vous, j'espère, trop de parents voudraient rendre coupables leurs enfants parce qu'ils souffrent, qu'ils sont angoissés de ne plus pouvoir avoir l'œil sur eux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils n'ont pas d'expérience, etc., etc. Âgé de 32 ans, un ami me faisait part d'une lettre de sa mère anxieuse qui lui demandait, je cite, « de tout lui dire ». J'entends sur sa vie tout ce qu'il fait. Imaginez jusqu'où ça peut aller. Et il lui a dit, parce qu'il m'a répondu, il m'a dit, mais je ne te dirai pas tout, parce que je ne peux pas d'abord. Et puis tout ne te regarde pas. Terrible ce passage. Chers amis, il n'y a pas de plus grand amour pour des parents que de laisser partir ses enfants. Ce court récit de l'adolescence de Jésus l'enracine dans notre existence humaine, c'est évident. C'est pour ça que je l'aime. Et à travers lui, j'entends la prise au sérieux de nos vies, comme de l'histoire des hommes. Nos souffrances, nos épreuves, nos conflits ne sont pas des échecs. Ils sont la pâte même de la vie. La foi n'est pas une évasion, comme l'alcool ou autre chose. Elle se vit au cœur de la vie. Je ne rencontre pas Dieu, je ne cherche pas à le rencontrer, je ne cherche pas la foi, si vous voulez aussi, pour me mettre à l'écart, pour me protéger. C'est là que le Christ est présent, tout le temps. Dieu sait ce qu'est la vie. Et il sait donc ce qu'est ma vie, même s'il la respecte. Il la rejoint dans ce qu'elle a de plus vrai, de plus personnel, de plus intime. Jésus se fait proche de moi pour que moi aussi je prenne au sérieux l'existence humaine, sa complexité, la mienne, celle des autres. Parce que Jésus est présenté maintenant comme mon frère en humanité. Alors me voilà appelé avec lui à une relation nouvelle avec Dieu. Un Dieu qui n'est pas une puissance qui organiserait les événements du monde, vous le savez bien, et jugerait le comportement des hommes, mais un père. C'est pas pareil. On est dans la filialité. On n'est pas dans le registre du maître à son élève. Peut-être que pour vous, l'image d'un père, malheureusement, on le constate aussi, souvent, renvoie à une expérience douloureuse. D'une mère aussi d'ailleurs, d'écrasement ou d'absence. Mais quand Jésus parle de Dieu comme un père, c'est pour nous ouvrir à une relation autre, faite d'amour, de confiance et de responsabilisation. Sans quoi, ça servirait à quoi de faire des enfants? Un lien qui pousse à grandir. Recevoir l'amour de Dieu, c'est devenir adulte, libre, responsable. Ce n'est pas s'enfermer ou se renfermer dans un système clos. Il n'y a pas de plus grand amour pour une communauté que de laisser chacun libre de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce qu'il croit. C'est un défi, hein ? Tout cela est un défi dans un monde où beaucoup de choses, depuis le fanatisme religieux jusqu'à la consommation marchande, qui est aussi une forme de fanatisme d'ailleurs, nous pousse à suivre les modes. Dieu nous veut libres, comme un père et de son enfant, à devenir autonome. Il n'y a pas de plus grand amour que de laisser grandir ses enfants. Ça a des conséquences énormes pour le catéchisme. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'en parlerai cet après-midi. C'est un apprentissage de la liberté, le catéchisme, dans le respect du regard que l'on a de l'Évangile. Chers amis, ce récit, vous l'aurez compris, n'est pas une histoire ancienne, un mythe, un rêve, mais l'histoire du Christ aujourd'hui, lorsque l'Esprit de Dieu souffle sur moi pour m'en faire vivre. Jésus, enfant, échappé à ses parents. Mais confesser le Christ ressuscité, c'est dire qu'aujourd'hui encore, il échappe à toute main mise. On a bien envie de le tenir, ce Christ, dans nos mains. À un moment, je me suis dit, mais bon sang, pourquoi il est parti physiquement? Je pense que s'il était parti, ce ne serait plus le Christ, ce serait un gourou. On dit qu'à la fin de cet épisode, Marie garde toutes ces choses dans son cœur. C'est un verset formidable. Peut-être y a-t-il un peu de rancœur, peut-être y a-t-il un peu d'amertume là-dedans. Mais je pense aussi qu'il y a du positif. Je pense aussi qu'il y a de la joie. Peut-être a-t-elle compris ce qu'était son fils aussi, déjà à 12 ans. Et elle sent l'importance de ce qui se passe. Et c'est peut-être pour ça que Luc a mis ce texte dans son évangile. Oh, elle ne comprend pas tout encore, pas vraiment tout le sens, bien sûr. Elle a besoin de cheminer, encore et encore, mais comme nous. Qui c'est qui prétend être abouti dans sa foi? Personne. En effet, cette révélation est là en germe, dans ce préadolescent de 12 ans. Il demeure le fils de Marie et de Joseph, mais il va rentrer avec eux à la maison, à Nazareth. Il va continuer à grandir, à émerveiller ses parents, peut-être à les troubler encore, à les embêter, à leur faire peur. La révélation ne va pas se faire que peu à peu, il va falloir du temps. Comme il me faut du temps pour découvrir dans ma vie à quel point Dieu est pour moi un père. Plus tard, c'est à Jérusalem aussi que Jésus va être arrêté. C'est à cause du temple qu'il va être condamné. Et c'est lors de la fête de la Pâque qu'il va être crucifié. Sur la croix, ses dernières paroles avant de mourir seront celles, alors là, du Fils de Dieu. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et la résurrection alors éclatera comme dans notre récit au troisième jour. Ça y est, Jésus est libéré. Jésus va maintenant nous faire grandir dans notre connaissance de Dieu. En écho aux paroles de Jésus enfant interpellant ses parents, « Pourquoi me cherchez-vous ? » Les messagers de la résurrection diront aux femmes en deuil, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen.
En écho à cette prédication, merci Nicolas, on va se lever pour chanter. Si je retrouve, c'est indiqué. Tu es là au cœur de nos vies, 47-19. Restons debout si nous voulons, si vous voulez, pour confesser notre foi. Dieu de vie, ton salut est offert à chaque être humain. Libre et gratuit, il est un chemin de libération. Nous croyons au Père, nous croyons en son amour, il restaure notre âme. Nous croyons au Fils, sa vie parmi nous, sa mort et sa résurrection, il marche avec nous. Nous croyons en l'Esprit qui confirme en nous la promesse du salut et qui vivifie la parole. Compagnon de chaque jour, il vient au secours de notre faiblesse. Dieu de vie, ton salut est offert à chaque être humain, libre et gratuit. Il est un chemin de libération. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Sur les feuilles de réponse, 45-16. À vous asseoir. C'est le moment de l'offrande et je crois que pendant l'offrande, voilà, il y a des mots, des images, je l'espère.
Alors, En l'absence de Nicolas Sorel, notre trésorier, enfin la personne qui est en charge par le conseil presbytéral de suivre les finances de notre Église, et c'est une tâche que je connais bien et qui est ô combien importante. Donc il n'est pas là, donc c'est moi qui suis chargé de vous présenter les offrandes, enfin vous dire à quel niveau nous sommes à ce moment de l'année. Peut-être d'abord, je voudrais dire deux mots sur toutes les offrandes qu'on peut faire en Église. On peut déjà offrir beaucoup de notre temps, ça c'est sûr, et je pense que beaucoup de personnes qui sont ici comprennent très bien ce dont je veux parler, puisqu'il nous avons le CERA qui est là, le service d'entraide de notre Église, qui a passé beaucoup de temps à confectionner des confitures, et puis toutes sortes d'objets et qui vont vous permettre de les acheter là pour leur vente d'automne, hein, donc qui sera dans le hall après le culte. Il y aura aussi une offrande particulière de la part d'Éric qui nous a préparé un apéritif. Donc nous vous offrons, enfin c'est l'Église hein, qui vous offre un apéritif donc à la sortie du culte. Mais c'est pas tout. On aimerait bien que cet apéritif, vous partiez pas juste après l'apéritif, mais que vous restiez avec nous, que vous ayez apporté des plats à partager ou que vous n'en ayez pas apporté. L'expérience montre qu'il y a largement de quoi faire, hein, généralement, et donc s'il y a quelques personnes qui n'ont rien apporté, soyez-vous accueillis, soyez-vous... vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, il y aura assez. Hein, Dieu pourvoira. Et puis, il y a des gens qui offrent des fleurs chaque dimanche. Donc là, c'est Christine et je suppose Daniel. Et donc, on les remercie, bien sûr. Il y a des gens qui nous offrent de la musique hein, chaque dimanche. Donc, merci Andrea, merci Nicolas. Et puis, il y a des gens qui nous offrent un accueil, qui nous offrent une préparation du culte, des tables en haut pour le repas, etc. Donc, je vais citer Sophie et je vais citer Nadine, alors pas Nadine Heller, hein, Nadine Littèze, il ne faut pas confondre, qui sont venus tôt ce matin avec d'autres personnes, avec Marie-Vonne hein, particulièrement, pour préparer cette journée. Donc Marie-Vonne, elle veut bien aussi faire un truc qu'elle n'aime pas du tout, c'est passer des diapositives. Donc normalement, on devrait avoir la diapositive, la première diapositive, pour vous dire que le niveau d'offrande pour cette année, pour l'année dernière, pardon, au 9 octobre 2021, nous en étions à 73 000 euros, c'est-à-dire à peu près 60% du budget des offrandes nominatives et anonymes régulières, on va dire. Donc, au prorata temporis, c'était comme si nous étions le 4 août, voilà, l'année dernière, à cette date. Alors pour cette année, c'est exactement pareil, hein, à très peu de choses près, puisque j'ai vu que nous étions à 73 600 euros et nous étions effectivement aussi au 4 août. Donc à ce jour, c'est comme si nous avions donné jusqu'au 4 août, mais il reste encore un petit effort à faire. Alors sur la diapo suivante, on va faire un savant calcul, c'est-à-dire... Oui, il y a des erreurs. Alors voilà, c'est-à-dire que l'année dernière, je n'ai pas fait le mot, donc ça aurait été marqué 2021 sinon. Mais comme il y a deux ans, je l'avais fait, donc effectivement, c'est marqué 2020 de temps en temps, mais c'est certainement 2022, oui, j'en doute pas. 31 décembre 2022, oui. Donc on devrait être à 124 000 euros à la fin de l'année. Donc 124 000 euros moins 73 600, là j'ai dû oublier le 6 aussi, ça fait combien ? Ah oui, 50 400 euros quand même. Donc il reste encore un petit effort à faire, léger petit effort pour bien terminer cette année. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de... Enfin, on est comme d'habitude, voilà. Et comme d'habitude, il y a un très gros effort, énorme effort à faire sur les trois derniers mois de l'année. Voilà. Eh bien, merci, excusez-moi de la longueur.
Je ne sais pas. Non, ce n'est pas les annonces. Est-ce l'offrande quand même. Voilà. La petite phrase que j'avais écrite, c'est « L'espérance que nous avons affirmée dans notre confession de foi, nous la confirmons par nos actes. Notre offrande exprime le règne de Dieu sur nos vies et sur nos biens. » C'est un geste du royaume, l'offrande et le don. Dieu vivant, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande, tout don que tu nous inspires par ton amour. Amen. Et c'est le moment des annonces.
Bonjour à chacun, merci d'être là aujourd'hui. Donc je m'associe à tous les merci que Christophe a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas les redire. Simplement merci à Nicolas et Nadine d'être parmi nous. Pour cette semaine, mardi, nous avons la chorale à 19h15. Mercredi, la prière à 18h. Donc simplement pour la prière, je voulais simplement vous dire que ce que l'on chante quand on prie le mercredi, c'est beaucoup des chants qu'on a chantés ce matin. Voilà, ça, ce qu'on a chanté ce matin m'a fait penser à la prière du mercredi. Le vendredi, tous les vendredis, il y a un repas partage dans les locaux du Secours catholique, rue Général Ferrier. Donc s'il y en a qui sont seuls, n'hésitez pas à vous joindre à ce repas. Vous serez toujours bien accueillis. Samedi, il y a le conseil du consistoire à Thonon. Voilà, et des rendez-vous plus lointains. Vendredi 21... Il y a Bible en partage. Donc, Bible en partage, on se retrouve ici au temple à 18h30 et c'est une réflexion, une méditation sur les textes du dimanche suivant. Voilà, et c'est œcuménique. Voilà, et un autre rendez-vous plus lointain, le sera le 18 octobre. Et je laisse la parole à Claudia qui voulait communiquer là-dessus. Merci. Et bien entendu, bienvenue à chacun pour le repas tout à l'heure.
Oui, comme on a mentionné Sera et que justement on a notre vente aujourd'hui, donc c'est évident. Mais je voulais aussi vous dire que donc le 18 octobre, donc ça sera mardi après-midi, j'ai invité l'ancien président du Jean Bost qui habite dans la région, qui va donc venir nous parler bien sûr de l'association Jean Bost. Mais je voulais, enfin, je lui ai demandé surtout de parler de qu'est-ce qu'on fait maintenant, enfin, vis-à-vis des gens handicapés. Et je sais que j'étais très émue quand on a eu la dernière, service œcuménique au mois de janvier qu'on fait tous les années. Il y avait des gens qui sont venus pour représenter, enfin, qui faisaient partie ou que pour représenter Arche, qui est maintenant installée dans notre région. Et ça aussi, c'est une œuvre chrétienne pour les handicapés. Et je trouve quand même que, voilà, c'est bien d'être au courant. Moi-même, j'ai un frère qui est handicapé de naissance. Donc, voilà, c'est un sujet quand même que je trouve intéressant. Et j'espère qu'il y aura quand même du monde qui vienne mardi, le 18. Donc, et on se réunir, on va se réunir là-haut. OK, merci.
Je ne veux pas tout prolonger, hein, mais cet après-midi, donc, il y a une conférence qui s'intitule « Penser la catéchèse des adolescents ou des préadolescents ». Vous savez que la préadolescence débouche sur l'adolescence et sur la majorité aussi, hein, et que nous avons des jeunes qui viennent dans des camps ou des rassemblements qui sont majeurs, hein, au niveau régional. Voilà. Penser cette catéchèse de la théorie aux pratiques. Voilà. Donc, cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure, après le repas en tout cas. Hein. Je vous informe aussi que je suis entré en relation avec Simon et Emeline hier. On a eu une belle soirée, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes, mais ben, c'est comme ça. Hein. Et on a convenu qu'on échangerait beaucoup plus sur ce qui se passe au niveau régional pour les jeunes, notamment en camp de ski cet hiver, là, qui est même bien enclenché, hein, qui aura lieu dans les Hautes-Alpes. Et puis, cet été, j'ai vraiment à cœur d'amener, alors ça sera peut-être plutôt des majeurs, mais on verra hein, comment ça se passe, une équipe de jeunes pour aller vivre un temps, alors je ne sais pas comment, il faut que je les appelle, à John Bost, effectivement, voilà. Et puis, on se fait fort, alors que ça n'a pas été le cas cette année, de remettre en place un rassemblement régional dit du carrément kiff, vraisemblablement, donc en la Toussaint 2023. On va changer le lieu, on va le rendre plus central, peut-être Lyon, hein, pour que ce soit plus facile. Voilà, avec une nouvelle équipe, on va essayer d'avancer de ce côté-là. Je reste toujours à votre écoute et à vos messages, et je réponds toujours. Voilà.
Et dimanche prochain, il y a le culte des familles.
Oui, voilà, j'allais dire culte des familles dimanche prochain avec un baptême. J'ai oublié le nom, mais... Antoine, voilà. Donc, revenez nombreux et nombreuses pour ça. Je vous invite à la prière, hein, les uns pour les autres. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pour ce monde dans lequel nous vivons, qui est parfois, souvent, divisé, déchiré, où il y a tant de haine qui éclate, où il y a tant d'innocents qui sont bafoués, où il y a tant de pauvres qui sont méprisés, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs, des bâtisseuses d'amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Pour que nous cherchions sans relâche à faire œuvre de paix, pour nos familles, pour nos lieux de travail, nos proches, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, tu nous as dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, pour que nous apprenions à donner le pardon et aussi à le recevoir, pour que nous apprenions à aimer nos frères, nos sœurs, toutes celles et ceux que nous côtoyons chaque jour, pour que nous apprenions à reconnaître chaque signe d'amour en notre monde. Nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Et toutes nos prières, toutes nos demandes, celles que nous n'arrivons peut-être même pas à exprimer, nous les rassemblons en te disant ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Je fais l'envoi et tu bénis. Oui. Dieu n'est pas enfermé ni dans un temple, ni dans un bâtiment. Il nous a choisis, nous, chacun, chacune d'entre nous, pour y faire sa demeure. Il accompagne nos pas partout où nous allons. C'est à nous de le rendre présent pour les autres. C'est à nous de témoigner de son amour.
C'est ensemble, peut-être.
Oui, je peux mettre les mains.
Oui, voilà. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ, que sa paix nous habite, que sa force nous porte, que son amour nous guide. Allons dans la joie de notre Seigneur. Amen.
Amen.
Mais il y a encore un chant.
Et oui.
C'est un petit chant, mais il est sympa. C'est un chant de repas aussi, ça tombe bien. Hein. 49-57.
Compte les bienfaits de Dieu. Restez pour le repas, donc et bon appétit en restant là, et bon, même si vous pouvez pas. Thank you.
Pierre, tu peux me dire si j'ai allumé dans le hall? Tu peux me dire?
Non. Maintenant, c'est allumé.
Je sais pas, c'est marrant, hein, mais c'est un peu le jour. Tu sais, elle est Vissambo, Nadine. Je suis ressentie.
Ouais. Carrément Vissambo, hein.
Le Nord.
Complètement le Nord. Mais aussi un peu la vallée de Münster.